Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sounou Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pour soigner une toux, une fièvre, une éruption cutanée, il y a des conseils, des produits vendus en pharmacie, des médicaments testés en laboratoire et d'autres remèdes aux principes actifs issus de la pharmacopée, de savoirs et de pratiques ancestrales. Si longtemps, certains ont prétendu détenir l'exclusivité du savoir académique, condamnant ou méprisant la médecine traditionnelle, cette vision étroite est aujourd'hui dépassée par celles et ceux qui, dans des laboratoires, des facultés, des officines, travaillent dans un esprit de collaboration constructive et de partage de compétences. Ces produits de santé traditionnels sont délivrés dans le cadre d'une pratique de soins ancrée dans un contexte culturel, dans un écosystème qui répond à des attentes, à des besoins spécifiques, une santé accessible aussi dans des environnements où, pour des raisons géographiques, humaines ou financières, consulter un médecin, acheter un médicament efficace et sûr reste souvent un objectif théorique fixé par des organisations internationales, une promesse dans un programme politique, mais pas forcément une réalité pour tous. Alors, quelle est la place de cette médecine traditionnelle dans les systèmes de santé du Sud? Comment les médecines du Nord et du Sud apprennent les unes des autres? Complémentarité, enseignement, interaction, des questions dont nous allons débattre au cours de cette émission. Priorité Santé enregistrée à Lavaur dans le sud-ouest de la France à l'occasion de la conférence sur les pratiques et produits de santé traditionnels organisée par la Fondation Pierre Fabre. Débat avec autour de cette table quatre invités réunis autour donc de cette problématique. Professeur Okia Sanogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de médecine traditionnelle de l'Institut national de recherche de la santé publique de Bamako au Mali, l'Afrique de l'Ouest donc, et puis l'océan Indien avec nous, à travers vous, docteur Charles Andrianjar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Institut de recherche appliquée de Madagascar. Avec nous également Romain Simonel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, ethnobotaniste, anthropologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Et puis enfin Pierre Champy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacognosie à l'Université Paris-Sud. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer de quoi il retourne précisément.
Priorité santé sur RFI.
Diversité, accès aux soins, recherche, avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer. Avant de comprendre comment aujourd'hui on travaille dans des laboratoires comme dans les vôtres, hein, Antananarivo ou à Bamako, professeur Okia Sanogo, on l'a dit, vous êtes à la tête de ce département de médecine traditionnelle à Bamako. Depuis combien d'années cette entité a-t-elle été créée au cœur de l'Institut de recherche du Mali?
Merci. Le département médecine traditionnelle provient de l'évolution de différentes structures, dont un institut de recherche sur la phytothérapie et la médecine traditionnelle, qui a été créé en 1968. Et des pionniers au Mali ont compris très vite qu'on ne peut pas baser la santé seulement sur la médecine occidentale et qu'il fallait valoriser les ressources de la médecine traditionnelle. Et donc, c'est depuis 50 ans, donc 2018, c'est le cinquantenaire de la recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Et donc, cet institut aujourd'hui est une fierté en Afrique de l'Ouest et mène des activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la médecine traditionnelle. Les produits sont évalués au niveau de cet institut pour leur efficacité, leur innocuité et puis pour connaître leur qualité.
Professeur Okia Sanogo, justement, on voit dans votre parcours cette pluralité quand on parle de ces produits traditionnels, transmission du savoir sur les plantes, recherche, fabrication de médicaments. C'est à la fois scientifique, à la fois très concret quand on parle justement de la fabrication des produits.
Mais bien sûr, vous disiez tantôt, tout de suite, moi je suis docteur en pharmacie avec un PhD en pharmacognosie donc l'étude des plantes médicinales. Et donc, avec un parcours, devenir professeur agrégé, aujourd'hui professeur titulaire. Et donc, le travail que nous faisons au niveau de notre centre, qui a été créé par un de nos pères académiques, le professeur Mamadou Koumaré, succédé par le professeur Aruna Keïta, ensuite professeur Dissa Diallo, tous pharmaciens, pharmacognosie. Donc, ils ont opté pour partir du matériel, c'est-à-dire les plantes utilisées par les populations pour la lutte contre les principales maladies, et ils ont ramené ces plantes-là dans des laboratoires pour faire les investigations. Investigations qui ont permis de mettre au point des médicaments traditionnels améliorés qui sont issus de la pharmacopée, dont la toxicité est connue, l'efficacité est connue, la qualité est connue. Et c'est ces médicaments traditionnels améliorés aujourd'hui que nous trouvons sur la liste des médicaments essentiels au Mali et qui sont prescrits par des médecins et également vendus dans les officines.
Pierre Champy, on a utilisé à plusieurs reprises donc ce fameux terme de pharmacognosie. Pour les auditeurs, qu'est-ce qui distingue ce spécialiste du pharmacien ?
La pharmacognosie, ça correspond à l'étude des produits naturels qui ont un intérêt biologique et notamment des plantes médicinales ou des plantes toxiques. Donc c'est une discipline qui se situe assez en amont dans le développement de médicaments notamment, avec de l'étude chimique et de l'évaluation d'activité biologique, toxicité, efficacité.
Depuis quand, Pierre Champy, les chercheurs ont jugé justement ce champ pertinent ? On sait très bien que c'est ancestral, traditionnel, donc il n'y a pas eu de rupture. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut parler dans l'histoire de la pharmacie ou de la pharmacognosie d'un intérêt particulier à partir d'un certain moment ?
Alors on peut considérer qu'il y a eu un intérêt dès les premières traces écrites de médecine traditionnelle. Et l'intérêt scientifique moderne, il a émergé extrêmement tôt, puisque les plantes qui étaient utilisées dans un cadre de soins en Occident, on fait l'objet d'études chimiques à partir du 19e siècle avec des isolements de composés, comme par exemple la morphine qui a été isolée en 1805 par un Allemand, beaucoup de travaux en France aussi par Pelletier et Caventou par exemple, de manière à extraire la quintessence en quelque sorte des végétaux, essentiellement dans un but d'amélioration du service rendu aux patients, notamment pour des plantes assez toxiques, de manière à mieux maîtriser les doses avec des produits qui étaient isolés. Et donc on sait, à partir du moment où on a commencé à isoler ces composés à partir de plantes médicinales, on s'est éloigné des pratiques traditionnelles en Occident.
Romain Simnel, est-ce que vous considérez que le regard a changé sur ce patrimoine ? On le sait, hein, c'est un patrimoine en mouvement, il y a tout le temps des découvertes, même s'il faut se référer au savoir des anciens, au savoir des communautés. Est-ce qu'il y a un moment de basculement où on a dit finalement ce ne sont pas des savoirs dépassés, ce ne sont pas même des savoirs dangereux, mais c'est vraiment une richesse à exploiter ?
Oui, disons qu'il y a, je pense qu'il y a une vingtaine d'années avec la création de ce qu'on appelle les ethnosciences, donc un mélange entre l'ethnologie et justement les sciences dures qui se sont intéressées à tous ces savoirs. Il y a eu une considération, on s'est rendu compte que ces savoirs pouvaient nous dire énormément, non seulement sur les systèmes de santé donc des pays du Sud, mais aussi sur leur culture, sur leur représentation, puisqu'en fait ce ne sont pas tant des produits naturels que des produits culturels. Donc ces deux dimensions, donc à la fois culturelles et médicinales, ont été vraiment reconnu. En plus, depuis un certain temps, on va dire qu'il y a une considération juridique maintenant au niveau des savoirs, donc sur la médecine traditionnelle, avec le protocole de Nagoya, donc en 2010, qui cherche à protéger justement l'accès aux ressources génétiques, aux ressources des médecines traditionnelles, en protégeant donc les pays et les cultures par rapport à ces ressources.
Pour éviter l'appropriation de certains savoirs ancestraux, on va dire, par des firmes qui diraient je prends ce savoir et je déleste la communauté de cette tradition qui est ancrée dans son histoire.
Tout à fait, je prends la molécule en fait et j'enlève l'enveloppe culturelle, j'enlève l'enveloppe humaine de l'expérience humaine qui est derrière tout ça quoi en fait.
Il y a une ressource de savoir, il y a aussi bien sûr une ressource biologique d'avoir à disposition tous ces produits et quand on pense justement à un territoire où il y a toutes les plantes, et voire même des plantes qui n'existent que dans cet endroit. On se retourne vers vous, docteur Charles-André Anjar. Madagascar, c'est un puissant fond de ressources au niveau des plantes médicinales, au niveau de la pharmacopée. C'est exceptionnel ce que vous avez dans votre pays au niveau des ressources naturelles.
Effectivement, ça c'est le paradoxe de Madagascar. Madagascar fait partie des 4 pays les plus pauvres du monde, mais Madagascar possède des ressources naturelles végétales qui est énorme. La biodiversité à Madagascar est très riche. Il existe aux alentours de 12 000 espèces à Madagascar et 80% de ces plantes sont endémiques à Madagascar. Cela veut dire quand vous vous promenez donc dans la forêt à Madagascar, vous trouverez 80% de ces plantes, vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Ce sont des plantes malgaches.
Ce sont des plantes malgaches, des variétés malgaches. Et c'est une richesse énorme pour Madagascar et c'est pas encore exploité parce que 3 000 plantes seulement sont répertoriées en fait dans la pharmacopée traditionnelle. Donc il y a un potentiel en fait énorme pour développer des phytomédicaments à partir de ces plantes.
Un potentiel énorme. Est-ce que ça veut dire que depuis toujours, il y a aussi une tradition de tradipraticiens qui fait qu'on a exploité ces ressources et que même eux ont encore des savoirs qui ne sont pas encore répertoriés?
Effectivement, il y a encore des savoirs qui ne sont pas répertoriés parce que en fait, on essaie de répondre donc aux besoins de la population. Si on a une maladie qui se présente, donc on va essayer de régler ce problème-là. Mais par exemple, il y a d'autres plantes que les tradipraticiens utilisent et qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe. Et le problème aussi, c'est que la pharmacopée traditionnelle malgache n'est pas très codifié. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la pharmacopée traditionnelle à Madagascar.
Alors, dès qu'on parle de la médecine traditionnelle, on fait toujours le parallèle avec ce que certains appellent la médecine moderne ou la médecine occidentale. On parle de complémentarité, on parle d'interaction. Et on parle justement, quand il y a coexistence de ces différentes thérapeutiques, des décoctions, des sirops, des racines, des gélules. Comment savoir qu'est-ce qui va agir, qu'est-ce qui va interagir? Professeur Rokia Sanogo, par exemple, si on parle de décoction. Comment on fait pour connaître la bonne quantité, la bonne température?
En fait, nous partons de formes traditionnelles et au niveau du labo, la standardisation également se base sur la détermination de la dose traditionnelle parce que c'est des pincées, c'est des poignées et il s'agit d'utiliser une balance pour peser plusieurs poignées et faire une moyenne. Et puis aussi, il y a des jarres traditionnelles qui sont utilisées et ils disent de mettre une quantité d'eau. Donc, il s'agit également de mesurer le volume d'eau que nous allons ajouter. Et au bout du processus, il faut savoir, après avoir fait une décoction, pendant un temps déterminé, quel est le volume qui reste. Donc, dans le processus d'utilisation, chaque fois qu'on va faire une tisane, selon une méthodologie bien déterminée, à une température bien donnée, nous allons avoir une tisane qui répond à des caractéristiques bien précises.
La question clé, c'est celle des interactions. Attention quand le généraliste qu'on a consulté à l'hôpital ou au centre de soins, attention quand on y va et qu'on est allé voir avant un tradipraticien qui nous a donné un autre produit. Il peut y avoir une interaction, mais le problème qui se pose, et on pose d'ailleurs souvent la question aux auditeurs de Priorité Santé, c'est que les patients qui vont voir le tradipraticien ne savent pas ce qu'a donné le tradipraticien. Il garde son secret. Alors comment informer son généraliste de ce qu'on a pris quand on ne sait pas ce que l'on a pris?
On a confiance au tradipraticien, on prend la préparation qu'il vous donne. C'est la même manière, on a confiance au médecin, on prend le produit que le médecin prescrit. Ce que nous devons dire aux populations, c'est que il faut pas se cacher. Il faut pas mélanger sans informer. Parce que les deux médicaments peuvent faire des interactions. Ça peut aller dans le sens positif, ça peut aller aussi dans le sens négatif. Donc je crois que nous devons avoir une communication avec les patients parce que nous savons que chacun a un itinéraire thérapeutique qui commence par ses propres connaissances, ensuite le tradipraticien, avant de venir chez le médecin. Et aussi, en sens inverse aussi, ça se fait. Donc nous nous conseillons, sur la base de nos recherches, de dire quand même, il faut prendre la précaution de mettre 2 heures entre la prise d'un produit classique et un produit traditionnel pour éviter les interactions, mais également dire que il faut pas tout mélanger parce que souvent en voulant se traiter, on peut avoir des problèmes. Pour l'intérêt du patient, nous disons, il faut faire un choix selon l'efficacité d'une médecine pour une pathologie donnée. Parce qu'il y a des domaines, par exemple, quand c'est une antibiothérapie, nous proposons de faire l'antibiothérapie en entier. Là, il faut éliminer l'infection et également, comme dans le palu, il faut d'abord, quand on a une forte fièvre, même s'il y a des plantes antipaludiques, nous disons que le pharmacien a élaboré une forme qui passe rapidement dans le circuit. Donc, dans ce cas, nous disons, selon la pathologie, il faut faire le choix là où il y a la solution la plus efficace, la plus accessible.
On ne parle pas que de médecine de village, hein, docteur Charles Andrianjar. On va le voir d'ailleurs aussi avec vous, professeur Sanogo. Il y a des laboratoires, il y a des recherches qui sont menées. Vous conduisez même des tests, des études de cas. Comment ça se passe? En quoi consistent vos contrôles de qualité?
Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout d'abord les informations sur les plantes venant des praticiens. Il faut bien préciser que les praticiens ont prescrit en fait donc ces médicaments traditionnels depuis longtemps et les connaissances ont été transmises de génération en génération. Donc il y avait déjà une sorte de d'essais cliniques qui ont été effectués auparavant, parce que si les praticiens donc administrent des médicaments qui sont toxiques, ça a un impact énorme sur leur notoriété.
Docteur Andrianjar, justement, comment vous arrive l'information? Vous êtes une communauté de chercheurs, de pharmaciens. On entend là-bas, il y a tel tradipraticien qui fait quelque chose qui marche, et après, vous allez chercher le produit. Comment ça se passe?
Nous avons eu de la chance parce que le fondateur de l'IMRA, le professeur Ratsimamanga, avait une très bonne relation avec les tradipraticiens. Et il faut aussi rappeler que l'IMRA a un statut de fondation reconnue d'utilité publique. Donc c'est pour ça que nous pouvons obtenir facilement des informations. Donc nous avons cette chance-là. Donc quand on parle des interactions médicamenteuses, c'est très important parce que quand on fait une demande d'autorisation de mise sur le marché, donc au ministère de la Santé publique, ça c'est un paramètre qu'ils exigent de donner des informations sur ça. Et en ce qui concerne l'IMRA, nous avons un département médical à l'IMRA, c'est-à-dire qu'il y a des consultations gratuites et puis nous administrons nos produits qui étaient là depuis une quarantaine d'années. En termes de, aussi de validation d'efficacité de nos produits, nous suivons en fait donc des protocoles qui ont été établis par l'OMS. Pour la médecine traditionnelle, c'était sorti en 2004. Il y a tout d'abord des études précliniques, des études de toxicité, et après aussi donc des observations cliniques que nous effectuons soit dans notre centre médical ou à l'extérieur en collaboration avec des hôpitaux. Donc c'est comme ça que nous validons l'efficacité et finalement les effets secondaires sur les produits que nous mettons sur le marché.
Alors cette dimension de test, des formes commercialisables, cachets, flacons, est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation, mais dans un sens, on va dire négatif, de la perte d'une dimension propre à cette médecine traditionnelle, Romain Simnel? C'est vrai qu'on ne voit plus le geste, forcément, le soin, le rituel.
Oui, tout à fait, mais en fait ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cette histoire de transmission, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle à la base elle est orale, elle est transmise oralement et donc il y a une mémoire qui est derrière et donc il y a tout un champ de représentation, une mémoire, on s'inscrit dans un parfois dans une relation même autobiographique, hein, donc la mémoire de l'individu, la mémoire de ses maladies, etc. Alors que la médecine entre guillemets moderne donc est avant tout écrite. Donc en ce moment, c'est un des avantages, c'est qu'il y a une mise par écrit des savoirs traditionnels. Donc maintenant, on a des manuels, des ouvrages, etc. où y compris en langue locale, on commence à enregistrer. Donc
qui les fait, Romain Simnel, ces manuels?
Alors
qui les rédige?
Souvent des chercheurs, des ethnomédecins, des ethnobotanistes en collaboration donc de toute nationalité. Hein, on est d'accord. Donc il y a énormément de chercheurs africains en ce moment qui font ce travail de mise par écrit. Est-ce que ça va changer les choses? C'est possible. En effet, le rituel, l'aspect rituel, comme vous disiez, est en train de peut-être disparaître avec cette mise par écrit, avec le fait que l'oralité est moins présente. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer justement dans ce jeu entre l'écrit et l'oralité. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement.
Professeur Okiasanogo.
Oui, nous chercheurs pharmaciens, pharmacognosistes, nous sommes intéressés aux produits. Mais il faut quand même aujourd'hui revoir un peu comment on s'intéresse aux autres aspects. Les autres aspects, c'est les praticiens, c'est les pratiques qui sont au niveau des communautés que les tradipraticiens utilisent. Je prends un exemple. Chez nous, avec la tendance de dire aux tradipraticiens de faire une bonne présentation, d'innover, nous perdons un élément capital. Parce que chez nous, aucun tradipraticien ne vous donne un produit sans goûter. C'est une manière de vous montrer que c'est pas un produit toxique. Donc, je crois qu'il est très important aujourd'hui que nous voyons que la médecine traditionnelle a tout un ensemble d'aspects. Par exemple, l'aspect holistique, le tradipraticien de santé qui est quelque part quelqu'un qui écoute, qui a le temps, qui vit les mêmes réalités que le malade et qui souvent sait que c'est pas une question physique, mais c'est réconcilier le malade avec son environnement, avec sa famille. Et je crois que quand on regarde les définitions de la médecine traditionnelle aujourd'hui, je crois que l'OMS en tient compte.
Alors, la pratique, on va revenir quand même sur le produit avec vous, professeur Pierre Champy. Comment est-ce qu'on met en flacon, comment on théorise, comment on répertorie ce savoir qui a une énorme dimension immatérielle?
On peut l'aborder d'une manière assez pratique, en l'occurrence par l'inventaire, ça a été évoqué, avec quand même une problématique, en l'occurrence de la circulation de l'information. Il y a beaucoup de littérature grise qui n'est pas publiée par rapport à des emplois de plantes, par rapport à des aspects de toxicité de plantes. Le relevé d'informations qui a été évoqué dans le cadre du suivi des patients est extrêmement important également pour appréhender du développement de standardisation de la médecine traditionnelle quand il y en a un très fort besoin, notamment en milieu urbain, en Afrique subsaharienne. L'OMS prône donc des approches assez proches de celles du développement du médicament classique pour le développement du médicament traditionnel amélioré. Donc ça implique effectivement une compréhension de la composition chimique, de la matière première et du remède. Ça implique aussi des évaluations d'efficacité et de sécurité qui peuvent être appréhendées par le biais des pratiques traditionnelles et l'expérience collective, mais on constate que le tri par l'expérience collective n'est pas forcément toujours excellent. Et que on passe parfois à côté de problématiques de toxicité, notamment en termes chroniques ou de la toxicité à long terme, ou pour des symptômes qui sont pas facilement corrélables avec la prise d'un médicament traditionnel.
Donc est-ce que vous avez un exemple? Parce que là, on est un petit peu dans quelque chose de théorique, c'est pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de dire.
Un très très bon exemple, c'est l'exemple de l'utilisation de plantes qu'on appelle les aristoloches, qui sont des plantes qui sont fortement néphrotoxiques, donc toxiques pour le rein. Les accidents sont des fibroses rénales ou des cancers rénaux qui vont se traduire à plusieurs mois de distance de la prise des plantes ou des préparations traditionnelles. Et il y a eu des accidents en Europe où on a un bon système de pharmacovigilance et on a pu remonter dans ce cadre-là à des accidents en milieu traditionnel. Donc là, c'était plutôt des emplois asiatiques, mais les aristoloches sont utilisés un petit peu partout en zone tropicale. Et là, la tradition est passée totalement à côté.
Ne pas se tromper de plante, ne pas non plus se tromper de tradipraticien. C'est peut-être compliqué ce que je vais vous demander, professeur Rokia Sanogo, mais il faut se méfier de quoi? Là, ceux qui nous écoutent, quand un tradipraticien vous promet ceci ou cela, quand est-ce qu'il faut dire au revoir, partir et aller voir quelqu'un d'autre?
Alors, j'ai dit que la définition même d'un tradipraticien, c'est une personne reconnue par une communauté dans laquelle il vit pour dispenser les soins. Et un tradipraticien, selon les traditions, ne va pas sur des antennes de radio, ne vend pas de faux espoirs, parce que sa notoriété, il est une personnalité sociale qui vit dans la communauté et c'est le résultat de son traitement qui va permettre les autres de revenir. Donc je crois que cet élément est important de ramener la médecine traditionnelle à un contrôle social.
Juste se méfier de ces affiches tapageuses en ville avec des numéros de téléphone qui vous promettent de vous guérir de ci, ça, ça, ça.
Bien sûr, il faut se méfier de ça.
Romain Simnel, vous l'irez.
Oui, je rebondis sur ce que dit Madame Sanogo parce que je pense que c'est très important, cette reconnaissance sociale qui est en fait un gage de confiance. Elle s'appuie sur quoi? C'est-à-dire comment est-ce que justement un tradipraticien est reconnu socialement? Madame Sanogo a donné en partie la réponse quand elle a parlé du côté holistique, c'est-à-dire que un praticien de médecine traditionnelle n'est pas seulement un médecin, mais il exerce d'autres types d'activités. Alors bon, au Sénégal, au Mali, on connaît notamment les médecins chasseurs, hein, donc ils ont une relation avec la brousse qui est particulière, et c'est cette relation avec la brousse qui, aux yeux donc des autres habitants, témoigne de cette perspicacité du savoir, parce que on sait qu'ils sont capables d'aller la nuit se déplacer seuls, etc., observer les animaux, observer ce que les animaux mangent comme plantes pour se guérir, etc. Donc tout ça, ça crée une chaîne de représentation qui assure en fait cette confiance.
Docteur André Njar, vous voulez réagir?
Oui, à Madagascar, l'État a fourni l'effort de prendre l'initiative de reconnaître en fait donc le métier de tradipraticien. Et il y a même un ordre de tradipraticien à Madagascar.
Mais qu'est-ce qui garantit justement, est-ce qu'il y a une déontologie particulière? Parce qu'on peut aussi donner un titre sans derrière forcément avoir le sérieux, ça peut arriver.
Oui, effectivement. Donc ça c'est quelque chose, mais il y a toujours des charlatans. Ça, je peux vous dire, si vous allez sur le marché à Madagascar, il y a un tradit praticien qui va crier, bon ben voilà un produit qui soigne l'asthme, qui soigne le mal de ventre, qui soigne alors là pour un médecin conventionnel, c'est pas possible. Donc ça dévalorise complètement donc les produits issus de la médecine traditionnelle.
Vous restez avec nous, on va se retrouver après une petite pause, toujours ici à Lavore, pour continuer ce débat autour de la place des pratiques et produits de santé traditionnels dans les systèmes de santé du Sud.
RFI à Bamako, 98.5 FM. Antananarive, 96 FM. Priorité santé sur RFI.
On se retrouve avec nos invités à l'occasion de cette conférence qui s'est tenue hier dans le sud-ouest de la France. Autour de cette table, quatre des experts invités à prendre la parole lors de ces rencontres de Lavore. Romain Simnel, ethnobotaniste, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement. Pierre Champy, chercheur et docteur en pharmacognosie. Docteur Charles Andrianjar, directeur général de l'Institut de Recherche Appliquée de Madagascar. Et professeur Rukia Tsanogo, chef du département de médecine traditionnelle de l'Institut National de recherche de la santé publique de Bamako au Mali. Professeur Tsanogo, avant qu'on parle des produits, j'aimerais qu'on parle de la transmission du savoir. Est-ce qu'à la faculté de pharmacie, est-ce qu'en médecine, on apprend la médecine traditionnelle aujourd'hui à Bamako et dans d'autres villes du Mali ?
En réalité, dans le curriculum de formation de médecins, de pharmaciens, on n'a pas la discipline de la médecine traditionnelle jusque-là. Mais depuis cette année 2017, grâce aux initiatives de l'Organisation Ouest-Africaine de Santé, qui s'occupe de la santé au niveau de la CEDEAO, 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a un programme médecine traditionnelle depuis 2007, il y a eu l'harmonisation des curricula de formation. Et dans le cadre de cette harmonisation, il a été adopté d'enseigner la médecine traditionnelle aux médecins, aux pharmaciens. Parce que ce que j'ai dit, qu'aujourd'hui, l'efficacité d'un médecin dépend du dialogue qu'il va établir avec le praticien de la médecine traditionnelle. Je prends le cas d'un enfant atteint de paludisme. Si cet enfant n'arrive pas à temps au niveau d'un centre de santé pour lui faire l'injection de Kinemax, cet enfant, il va venir mourir chez le médecin. Et pour les populations, c'est l'injection de Kinemax qui tue l'enfant.
En fait, il a été soigné trop tard.
Voilà. Donc, le médecin doit être formé pour qu'il y ait ce dialogue, pour une détection rapide et une référence, et pour sauver cet enfant.
Professeur Pierre Champy, vous vouliez réagir?
Oui, c'est une excellente initiative que de former les médecins. C'est quelque chose qui manque énormément en Occident, où il y a une totale différenciation entre les pratiques du public en général, qui se tournent beaucoup vers des produits naturels actuellement, et des produits naturels qui ont plutôt un statut alimentaire, en fait, alors que c'est des produits qu'on peut considérer comme médicaments. Un autre élément qui est très important, c'est finalement l'aide que le médecin conventionnel peut apporter à l'évaluation de la médecine traditionnelle. L'OMS a tendance à prôner une évaluation de l'efficacité par le biais d'études cliniques qui, je pense, sont extrêmement difficiles à faire quand on n'a pas un cadre infrastructurel suffisant. Et des études de type cas-contrôle, où on va simplement faire du suivi de patients et ensuite regarder les données dans leur globalité, des données éparses, donc vraiment une approche qui est très différente de celle qui est validée actuellement par la biomédecine occidentale, c'est quelque chose qui peut être fait probablement par le biais des médecins communautaires.
Docteur Andrianjar, dans votre institut, vous conduisez des études avec des cas, avec des retours. Ça permet après une autorisation de mise sur le marché. Mais est-ce que vos produits, aujourd'hui, ils sont exportables?
Non, en fait, parce qu'il y a une réglementation européenne qui empêche de faire entrer les produits en Europe. Mais nous, ce que nous cherchons tout d'abord, c'est que notre objectif, c'est tout simplement donc de servir notre population.
Et ce, y compris pour soigner des maladies chroniques, des maladies très graves. J'ai vu dans la documentation qui concerne votre institut, par exemple, en termes de diabète, en termes de drépanocytose. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces... Vous parlez de quoi exactement? De remèdes, de médicaments, de traitements? Quel terme vous employez?
En fait, donc, on parle de notre médicament, le Madéglucil. Le Madéglucil est vendu en Europe sous le nom Glycafon. C'est tout simplement donc un extrait de plante et c'est utilisé aussi par l'association des diabétiques à Madagascar. Et on connaît très bien donc le profil donc de toxicité, d'innocuité de ce produit.
Il fait baisser le taux de glycémie.
Il fait, oui. Et l'avantage, c'est que ça fait pas descendre donc le patient qui prend donc le Madéglucil n'a pas d'hypoglycémie. Donc c'est beaucoup plus intéressant en fait. Donc le Madéglucil n'a pas d'effet secondaire jusqu'à présent parce que ça a été déjà donné depuis une vingtaine d'années donc à Madagascar. En termes de la drépanocytose, ça c'est quelque chose de nouveau que nous avons travaillé avec la Fondation Pierre Fabre. Donc dans ce domaine-là, nous avons trouvé des produits qui soulagent en fait donc les patients drépanocytaires. On est encore tout à fait au début de nos...
Là on est sur le traitement de la douleur. Hein, on n'est pas sur un règlement du tout de la maladie, on est sur apaiser le patient.
Exactement, parce que la drépanocytose est une maladie génétique, donc on ne peut pas soigner.
Hein,
donc la drépanocytose, mais on essaie de soulager tout simplement donc les patients dans la lutte contre la drépanocytose.
Je me tourne vers vous, professeur Okia Sanogo. S'il y avait, on fait pas l'article, hein, on n'est pas en train de vendre quelque chose, mais s'il y avait vraiment un produit, vous, depuis 10-15 ans, quelque chose qui vous a épaté au niveau de l'efficience, de l'efficacité.
Oui, bon, et tout de suite, on parlait de la drépanocytose. Également, il y a des plantes, par exemple, intéressantes qui aident à améliorer la qualité de vie du patient. C'est très important et nous venons de terminer un travail en collaboration avec le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au Mali qui est l'œuvre de la Fondation Pierre Fabre. Voilà, donc mais parmi nos produits pendant ces 50 ans, il y a un produit qui vraiment est très apprécié, c'est le sirop Balembo par exemple, un sirop antitussif. Sous la toux simple, un sédatif de la toux, pas un antimicrobien, donc et qui est très très bien apprécié, qui vient de l'extrait d'une plante malienne, mais c'est le fait que c'est un sirop adulte et sirop enfant, proche également de préparation préparation traditionnelle proche des médicaments classiques. Mm-hmm. Je crois qu'aujourd'hui il y a une grande popularité et présentement nous sommes en train de faire dans un partenariat stratégique de produire ce sirop en grande quantité avec la pharmacie populaire du Mali qui est la structure étatique qui distribue les produits pharmaceutiques à l'intérieur de tout le Mali pour mettre ce sirop à l'abri des falsifications. Parce que nous, notre grosse préoccupation aujourd'hui, c'est ramener tout ce qui est médicament dans un cadre professionnel. Le département avec la PPM, le circuit de distribution de la PPM. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons qu'on ait des produits sûrs, efficaces et de qualité qui va aux populations et que quand on aura le résultat, c'est sûr que les gens vont mieux apprécier la médecine traditionnelle. Et l'autre produit qui a été le premier produit de notre centre dans les années 60, c'est la pulpe de fruits de baobab, comme antidiarrhéique, réhydratant, reminéralisant, qui a été abandonné. Et présentement, nous sommes en train de travailler à la possibilité d'utiliser la pulpe de fruits de baobab pour mettre dans l'eau et donner à des enfants qui ont la diarrhée. Et ça peut jouer le rôle de la solution de réhydratation en cas de diarrhée. Et c'est un produit disponible, efficace.
À portée de main. Ouais. Parce que se pose aussi, bien sûr, la question de la distribution. La distribution, c'est essentiel. Romain Simnel, est-ce que justement la façon dont les communautés emploient les ressources naturelles traduit leur rapport à leur environnement? On disait tout à l'heure cette rupture complète avec vous, professeur Pierre Champy, sur les savoirs, les thérapeutiques qu'on appelle alternatives et la thérapeutique lourde ou classique. Est-ce que justement plus une population, une communauté est proche de la nature, plus elle va intégrer cette nature à son mode, y compris de médecine?
Oui, en fait, c'est-à-dire que les savoirs de la médecine traditionnelle découlent de schémas de représentation, de l'environnement, des relations qu'on peut avoir aux animaux, aux plantes, etc. Il est vrai que la médecine moderne est quand même extrêmement basée sur ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette capacité à tirer les substances visibles d'une plante, c'est-à-dire la plante telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle est bonne à penser, alors qu'il y a beaucoup de médecine traditionnelle qui se passe sur ce qu'on appelle l'analogisme, c'est-à-dire de faire des analogies. Par exemple, vous connaissez la théorie des simples, qui est que, par exemple, une plante va ressembler à un organe, alors on pense que cette plante va guérir cet organe. On a vérifié, c'est vrai qu'il y a des relations entre la physionomie, mais pas tout le temps, parfois c'est trompeur. Et donc, c'est vrai que cette relation à l'environnement, elle tisse un schéma bien particulier de rationalité, en fait. Ça n'obéit pas au même type de rationalité. C'est là où le débat, en fait, doit s'ouvrir, et c'est là où les deux côtés, la médecine traditionnelle et la médecine moderne, doivent s'ouvrir légèrement pour oublier son dogme et peut-être arriver à échanger, quoi.
Alors, un sujet qui est très vaste, mais il y a un sujet qui est essentiel, et on aborde notre conclusion, c'est l'accès aux soins. Est-ce que prendre des médicaments traditionnels, docteur Andrian Jar, c'est aussi prendre plus facilement, parce que c'est moins cher, des médicaments? On le voit dans votre travail, hein, vous mettez en avant le prix, le coût, c'est quelque chose d'essentiel, on va pas se tromper là-dessus, hein, pour une partie des auditeurs. Souvent, on leur dit, vous devez prendre tel ou tel médicament, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas payer ces médicaments. Est-ce que là, cette notion d'accessibilité, c'est vraiment quelque chose d'important?
Effectivement, c'est très important pour notre institut. Ça, c'est la raison d'être de notre institut, c'est de vraiment d'améliorer donc l'accès aux médicaments à des patients à Madagascar. Et à chaque fois que nous développons donc et concevons des médicaments, nous tenons compte de coûts de production et de coûts aussi de vente de ces médicaments. Et actuellement, et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de la part de l'État malgache, c'est que il y a une politique maintenant qu'ils ont installé à intégrer les remèdes traditionnels améliorés dans le système national de santé. Ce qui veut dire que ils mettent du budget même pour acheter en fait donc de ces produits qui sont issus de nos instituts ou d'autres instituts à Madagascar. Et c'est très important parce que la plupart des patients à Madagascar n'arrivent pas à acheter en fait donc des médicaments importés ou des médicaments à base de molécules. Donc il faut utiliser tout simplement les ressources génétiques végétales qui sont à côté, les plantes médicinales, ils peuvent s'en servir. Et puis quand on parle des avantages, des accès, partage des avantages, là on est vraiment donc dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser les plantes et puis on va donner donc aux patients qui en ont besoin localement. Donc on répond vraiment donc à la convention de Nagoya ou de Rio. Donc ça c'est quelque chose que nous tenons absolument, c'est-à-dire que il faut que le coût des médicaments qui sortent de l'IMRA soit accessible à la majorité de la population à Madagascar.
Mais est-ce que d'une certaine manière, je vais me faire l'avocate du diable, est-ce que c'est pas une médecine de pauvres réservée aux pauvres?
Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Parce que il y a quand même des riches qui s'intéressent beaucoup donc aux médicaments.
C'est un excellent signe de dire que si. J'ai une autre question qui est importante aussi. On va revenir justement à cette question de l'équité dans l'accès aux soins. Mais il y a une notion que je voudrais qu'on aborde avant la conclusion de cette émission. C'est la biodiversité avec vous, Romain Simnel. Mmh. Avoir justement ces ressources, ces produits, c'est aussi avoir un environnement protégé pour continuer d'avoir ces produits. Et ça, c'est une question clé aujourd'hui.
Oui, les deux vont ensemble en fait, et ce qui permet d'ailleurs à des populations locales d'être valorisées, on va dire, hein, puisqu'elles sont considérées comme en gros les gardiennes d'une biodiversité par défaut, parce qu'en fait elles habitent là, elles habitent dans un site particulier où il y a un potentiel justement de plantes médicinales énorme. Et donc du coup, oui, derrière il y a l'UNESCO qui vient, il y a ce qu'on appelle les réserves de biosphère, donc il y en a plusieurs maintenant sur la planète. Et donc du coup là, ça crée des poches en fait, avec les qualités et les défauts, parce qu'on peut parler aussi du risque de sanctuarisation, c'est-à-dire de créer des espaces sanctuarisés où finalement les populations locales sont obligées de rester dans ces espaces sanctuarisés liés à ces plantes, etc. C'est le cas en Inde notamment avec les tribus indiennes, mais il est clair que les deux sont complètement liés, la gestion donc des ressources de médecine traditionnelle et la conservation de la biodiversité sont deux problématiques liées et qui vont déterminer déterminer énormément le destin des populations traditionnelles, enfin des populations locales demain, ça c'est certain.
Romain Simnel, par rapport à la standardisation, par rapport au manque de moyens et aussi aux moyens dont disposent les communautés, parfois qui n'ont pas même accès à des centres de santé, qu'est-ce qu'on peut dire justement pour changer encore l'image qui existe de cette médecine traditionnelle que certains assimilent encore à des pratiques un petit peu fumeuses, un peu d'obscurantisme. Non mais c'est vrai, même dans le terme employé, des fois on dit marabout, sorcier, il y a une espèce de mélange de tout et de n'importe quoi. Comment apprendre aux gens de quoi ils retournent exactement ?
Déjà il y a aussi le danger de l'exotisme, c'est-à-dire que souvent c'est considéré comme des choses très exotiques, donc on se dit tiens allez je vais prendre un peu de cette poudre là.
Mais aussi parce l'importation que... à travers les chamans, il y a une espèce de mode en Europe,
oui,
tout le monde est chaman.
La néo-spiritualité aujourd'hui.
Le coach, le chaman, on sait tout faire, c'est magnifique.
Ouais, en Bavière par exemple, vous avez des rues, vous avez le chaman, le tradipraticien africain, etc., etc. Vous faites votre choix. Vous avez même peut-être que bientôt il y aura des supermarchés de la médecine traditionnelle en Europe, c'est pas impossible. Donc ça c'est un grand risque. Parce que encore une fois, on mélange tout, c'est-à-dire qu'on oublie le côté justement culturel, social, linguistique. On a parlé de tradition orale, on a parlé de mémoire, on a parlé de tout ça. Il faut bien que celui qui s'intéresse à la médecine traditionnelle se dise qu'il ne s'agit pas seulement de médecine. Il s'agit d'un ensemble de connaissances qui ont une logique, qui est propre à cette population et qu'il faut la respecter. Voilà. Donc, j'allais dire, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Si vous voulez prendre la médecine traditionnelle, très bien, mais intéressez-vous aussi au pays, à la population, aux connaissances qui vont derrière et aux grands praticiens qui sont à l'origine de ces savoirs.
De ces savoirs, professeur Pierre Champy, la médecine traditionnelle, c'est pas une médecine de potion.
C'est clairement pas une médecine de potion. On peut objectiver vraiment beaucoup de choses. La tradition est forte. Les phénomènes de convergence d'usage entre des continents ou des populations qui n'ont pas de rapport entre elles vont sélectionner les mêmes familles de plantes et même classes de molécules. C'est quand même une démonstration d'une perception traditionnelle qui est puissante. On a évoqué à plusieurs reprises la notion d'exotisme ici. Elle se retrouve aussi, je pense, en Afrique subsaharienne avec l'importation de produits médicinaux chinois. Et on a beaucoup de déracinement des pratiques, finalement, une globalisation de l'offre traditionnelle. On a évoqué la problématique du financement. Quand on réalise que le recours à la médecine traditionnelle est le mode de soins le plus important sur la planète, le plus pratiqué, que la plante médicinale est à la base de la santé de la majorité des personnes sur cette planète, le manque de financement qu'on a globalement, le manque de collaboration qu'il peut y avoir, le manque d'action efficace pour préserver les ressources également, est absolument scandaleux.
Professeur Okiasanogo, c'est très intéressant d'entendre que de Pékin à Bamako, il arrive qu'on soigne avec les mêmes plantes.
On va pas avoir la même essence géographique, mais on va avoir des convergences. Voilà, mais ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des plantes qui circulent. Il y a des plantes qui circulent provenant des médecines traditionnelles. Et ce que moi je voulais dire, c'est chercher aujourd'hui à ramener dans un cadre contrôlé et scientifique. Et là, je voulais parler de l'expérience que nous sommes en train de faire en Afrique de l'Ouest. C'est l'Organisation Ouest-Africaine de Santé qui, depuis 2009, a entamé l'élaboration des pharmacopées, de plantes médicinales. Et donc, on a fait une première pharmacopée qui est basé sur 54 monographies pour la prise en charge du paludisme, VIH, tuberculose, la drépanocytose, la diabète et l'hypertension. Et présentement, nous sommes en train de faire une deuxième pharmacopée de 30 plantes pour la prise en charge des maladies émergentes et réémergentes. Donc je crois qu'avec ce processus de pharmacopée, nous pouvons ramener quand même l'utilisation des plantes les plus répandues pour les pathologies fréquentes dans un contexte bien organisé, parce que notre département par exemple est un centre d'excellence qui participe à cela, et nous voulons que à travers ça nous aboutissions à des phytomédicaments avec un label OAS qui puisse circuler dans les pays.
Docteur Charles Andrianjar, justement, accès aux soins, accès aux produits, et pour ceux aussi qui les fabriquent, des moyens pour pouvoir travailler, pour pouvoir répertorier, pour pouvoir chercher et innover.
Effectivement, ça c'est vraiment important, parce que il y a les exigences donc de l'État pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, c'est à peu près le processus de conception et de développement se ressemble beaucoup donc à celui des médicaments à base de molécules. Donc il faut des moyens, il faut de l'équipement et tout ça. Alors que Madagascar, c'est un pays pauvre, on n'aura pas ça. Et c'est ça ce que je me rejoins un petit peu. Donc à la demande de professeur Sanogo, il faut nous aider. Il faut nous aider à vraiment donc à mettre un peu plus de budget à développer ces médicaments, surtout à Madagascar où il y a une richesse énorme de plantes médicinales. Et on n'a pas tout découvert. Donc, si on a les moyens, je pense qu'on va découvrir beaucoup plus de plantes que ce qu'on a actuellement. Et ça veut dire que, à la fin, on pourrait soigner la population à moindre coût.
Pour conclure à cette notion d'accès aux soins, professeur Rokia Sanogo, est-ce qu'on peut dire que dans certaines circonstances, les pratiques, les produits de santé traditionnels sont un facteur d'équité, d'égalité dans l'accès aux soins?
Oui, aujourd'hui, je crois qu'il est important la question de l'accessibilité des médicaments issus de la pharmacopée. Notre centre est subventionné par l'État et donc c'est l'approche même de l'État de dire que ces médicaments doivent être sous la liste des médicaments essentiels, donc accessibles. On a fait même des études, nous avons essayé de faire des études, on a vu que les prix sont concurrentiels par rapport aux produits classiques de même catégorie. Et l'accès à c'est pas un médicament réservé aux pauvres. Et je vais dire parce que nous avons constaté que la majorité des patients qui prennent dans des études disent que c'est à cause de l'efficacité.
Et de toute façon, quand on interroge les gens, c'est de toute catégorie sociale. Voilà. Il y a aucune distinction d'origine l'usage de la médecine traditionnelle.
De la médecine traditionnelle quand c'est un produit validé. Et là, c'est vraiment, il y a une confiance et les gens viennent et on a les consultations, on voit toutes les catégories de gens qui viennent et souvent ça peut être dû au type de la pathologie. Mais aujourd'hui, moi, nous plaidons pour l'équité, pour l'accès aux soins équitables parce que dans nos pays, on dit que plus de 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Alors que la médecine conventionnelle, dans ce cas, c'est 20%. Et la majorité, les fonds de la santé sont alloués au système conventionnel. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes pour une réelle prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle dans la pyramide sanitaire. Parce qu'il y a le centre de santé, mais la médecine traditionnelle est au niveau de chaque village. Et les praticiens de la médecine traditionnelle vivent avec les communautés. Donc, comme on parle de santé communautaire, nous nous disons aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé d'une communauté en ignorant les pratiques de médecine traditionnelle. Je crois que l'OMS l'a dit, et aujourd'hui, il faut un accès, un accroissement de la couverture sanitaire, il faut un accès universel à la santé, et l'accès universel de la santé doit tenir compte de l'utilisation des ressources, de toutes les ressources, c'est-à-dire les praticiens, les pratiques et les produits efficaces, sûrs et de qualité.
Merci beaucoup. Voilà, notre échange touche à sa fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat consacré aux pratiques et produits de santé traditionnelle, thématique de cette conférence organisée hier dans le sud-ouest de la France à Lavaur. Merci à vous, professeur Rokia Sanogo, chef du département de médecine traditionnelle de l'Institut national de recherche de la santé publique de Bamako, Mali. Merci à vous, docteur Charles Andrianjar, directeur général de l'Institut de recherche appliquée de Madagascar. À vous, messieurs Romain Simonel, ethnologue, ethnobotaniste, anthropologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, et Pierre Champy, docteur en pharmacie, membre du bureau de la Société française d'ethnopharmacologie. Une émission enregistrée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, organisatrice de cette conférence, Priorité Santé, réalisée par Victor Hull, ici à Lavaur, préparée par Ophélie Lassène et Assetou Samaké à Paris. Demain, nous serons à Marseille, où se tient jusqu'à samedi la 24e édition des actualités du Pharo, consacrée aux maladies tropicales. Et nous parlerons de la santé urbaine, défi pour les villes du Sud. On se retrouve donc demain à Marseille. Très bonne journée à l'écoute de RFI.
C'était écoutez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.